match. Voici Simon Gagné.
Salut Simon, comment vas-tu?
Ça va bien, toi, Dan?
Oui, j'espère que tu es nerveux ce soir, Simon, parce qu'il y a deux co-animateurs avec moi en studio. Jérémy,
ah ouais?
Jérémy et Marie-Charlotte qui vont chacun te poser une question. Et je leur ai fait la promesse au début de mon émission que c'est eux qui vont commencer, qui auront le privilège de commencer l'entrevue avec toi. Donc, je débute avec Marie-Charlotte qui a une question pour toi, Simon.
Excellent.
Simon, est-ce que de quoi tu es plus fier, ta Coupe Stanley ou ta médaille d'or olympique?
Premièrement, salut Marie-Charlotte, très content de te parler. C'est une très bonne question. Difficile à répondre, je te dirais. J'ai pas le choix de mettre les deux égalités. Veux pas, quand tu grandis, lorsque j'avais votre âge, nous autres, on rêvait de gagner une Coupe Stanley. C'était notre but ultime. Par la suite, ben les joueurs de la Ligue nationale ont pu avoir la chance de aller représenter leur pays, aller aux Jeux olympiques, puis après ça, rêver à gagner une médaille d'or. Peut-être les jeunes aujourd'hui, maintenant, grandissent probablement en jouant dans la rue, gagner une médaille d'or, gagner une Coupe Stanley, mais moi, dans mon temps, c'était pas ça. Mais de représenter ton pays, puis gagner une médaille d'or aux Jeux olympiques, jouer avec les meilleurs contre les meilleurs. Puis moi, en 2002, avec l'équipe Canada, ça faisait 50 ans que le Canada avait pas gagné la médaille d'or pour leur pays, fait que d'avoir fait partie de cette édition-là qui a ramené la médaille d'or au Canada, c'était encore plus spécial. Fait que, mais j'ai pas le choix de te dire les deux. C'est vraiment là au top de ma liste de toutes les choses que j'ai faites dans ma carrière au niveau du hockey.
Mais Simon, même si t'as pas réussi à trancher, avoue que la question de Marie-Charlotte était bonne.
Très, très bonne question. Comme je te dis, c'est différent dans notre temps. Comme je disais, on a grandi, nous autres, juste avec la Coupe Stanley, la médaille d'or, les Jeux olympiques, on connaissait pas ça à votre âge. Oui, il y en avait, mais c'était pas les joueurs de la Ligue nationale qui allaient partir. Mais c'est une très, très bonne question, oui.
OK, Jérémy, maintenant, Jérémy Lefort de la polyvalente de Charlebourg va te poser sa question.
Salut, Simon. Moi, je voulais revenir sur les événements de la semaine dernière dans la Ligue de hockey nord-américaine. Je voulais te parler de l'événement du match à Saint-Jérôme. Il y avait eu une grosse vague de racisme. Puis là, je voulais te demander si, selon toi, il y a trop de tolérance de la part des arbitres. Donc, les supporters, ils prennent exemple sur leurs joueurs, sur leurs joueurs favoris, les entraîneurs qui voient évoluer et puis les voient insulter les arbitres. Parce qu'au hockey, les arbitres, on le sait, ils sont très, très... ils sont au cœur de l'action. Ils sont souvent pointés du doigt, ils sont souvent insultés. Puis là, je voulais savoir de ta part... En plus, tu as joué avec Wayne Simmonds puis Donald Brashear. Je voulais savoir si de ta part, ça va trop loin, puis si tu as déjà été témoin de propos racistes à ce point-là.
Bon, premièrement, Jérémy, très bonne question. Content de te parler. Tu as l'air de faire un bon travail avec Marie-Charlotte puis Dan ce soir. J'ai pas été témoin de choses comme ça. Puis tu viens de dire très, très bien que j'ai joué avec des joueurs de couleur, Wayne Simmonds, Donald Brashear, qui est un de mes bons chums, qui était mon policier dans mon équipe lorsque je jouais avec les Flyers de Philadelphie. Peut-être ces joueurs-là ont été témoins, ont entendu des choses comme ça. Je te dirais les choses banales là, que j'entendais là, à mon endroit des fois, puis ça me passait du pied par-dessus la tête, c'est il disait hey, le frog, c'était l'expression, t'es un Québécois, t'es un Français, hey, le frog. C'est la seule chose que j'entendais. C'est sûr, tu te rappelleras pas de ça. Patrice Dubuisbois, qui était un francophone qui jouait pour le Canadien de Montréal, lui, s'avait fait traiter de frog. Puis lui avait été audité de la Ligue nationale. Puis il disait, il y a quelqu'un qui m'a traité de frog, c'est lui. Puis moi, ça me dérangeait pas. Ça me passait du pied par-dessus la tête. Puis oui, comme toi, j'ai vu les événements là, dans la ligne nord-américaine. Si je ne me trompe pas, je sais pas si c'est cette ligue-là, mais... c'est peut-être la ligne un petit peu en bas, le semi-pro. Écoute, je veux pas dénigrer la ligue, mais c'est la réputation de la ligue. Puis des fois, c'est les fans vont là pour voir de la bataille. Il y a des gens qui ont pris beaucoup d'alcool dans les estrades. Puis je pense que les arbitres essaient de faire un bon travail de ce côté-là, mais c'est certain que ces choses-là ont pas de place dans le niveau du hockey. Puis je suis persuadé que autant que au niveau de la Ligue nationale, Ligue junior majeure du Québec, même cette ligue-là, même si c'est une ligue inférieure, on va l'appeler semi-pro, vont prendre les choses en main pour que ces choses-là se répètent pas. Mais c'est quasiment là c'est quelque chose qui est dur à régler parce que dans le feu de l'action, des fois, il y a des joueurs qui dépassent les limites, autant les fans aussi dans les estrades.
OK, merci Jérémy, merci Marie-Charlotte. Simon, j'ai de la pression pour te poser une question intéressante parce que là, tu viens d'en avoir deux en ligne. Moi, je vais te parler de Jesperi Kotkaniemi qui a été laissé de côté par Claude Julien hier. Ça a fait un tabac au Québec. Tout le monde se questionnait pourquoi Kotkaniemi ne jouait pas. Et aujourd'hui, à la séance d'entraînement, tout l'espoir qui jouera peut-être pas demain à San Jose, il n'y avait pas un rôle super important à la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Toi, tu es arrivé à la Ligue nationale à 19 ans. D'abord, est-ce que tu as été laissé de côté? Est-ce que tu as été LT scratch, comme on dit en anglais, pour certains matchs dans tes premières années dans la Ligue?
Non, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai fait le saut à 19 ans, tandis que Kotkaniemi a fait le saut à 18 ans. J'en ai souvent parlé que de le faire à 18 ans et à 19 ans, c'est deux mondes différents. À 18 ans, peut-être j'étais prêt, niveau skills, habilité de jouer dans la Ligue nationale, mais côté physique, être prêt à jouer avec des hommes pendant 82 matchs, le voyagement, tu sais, c'est quelque chose qui veut pas, ça prend pas, ça vient avec la maturité. À 19 ans, j'étais plus prêt, j'étais plus gros physiquement, j'étais prêt à prendre les bouchées doubles, comme qu'on dit. Fait que je suis pas surpris de ça, Dan. Tu vois que le jeune manque un petit peu de gaz. C'est pas un gros bonhomme. Oui, il est grand, mais c'est pas un gros bonhomme. Puis peut-être là, la saison commence à y rentrer dans le corps. Puis tant aussi longtemps que l'équipe va gagner, il va aller chercher des points. N'importe quel entraîneur, même si c'est un jeune de 18 ans qui a un avenir extraordinaire avec le Canadien, tu veux pas changer un alignement gagnant. Puis en même temps, ben peut-être que le jeune va se remplir d'énergie pour le reste de la saison. Puis tu sais quoi, une fois de temps en temps, là, c'est pas mauvais d'aller voir un match d'en haut puis de voir, hey, je pense que j'avais pas de temps dans des situations de match comme ça, dans le coin de même. Je pensais que plus je me débarrasse de la rondelle, mais hey, j'ai peut-être une seconde de plus à faire mon jeu. Puis c'est tout le temps des situations que, en tant que joueur, oui, on n'aime pas ça se faire mettre dans les estrades, mais quand t'es en haut, t'essaies de regarder ça d'un autre côté puis prendre le positif de ça, puis par la suite quand tu vas retourner sur la glace, tu sais que t'as peut-être un peu plus de temps avec la rondelle dans certaines situations de match.
OK. Simon, il y a une réunion des DG en Floride actuellement. Il y a quelques petits règlements qui ont été discutés. Réduire de 2 à 1 minute la punition en prolongation parce qu'on trouve que 2 minutes sur 5 minutes, c'est trop long. Ça, c'est difficile. Je pense pas que ça va arriver dès l'an prochain. C'est difficile à se faire une tête là-dessus. Là. Si on sait que c'est juste 1 minute, il y a peut-être plus de coups qui vont être portés, puis il y a plus de gens qui vont prendre une punition en sachant que l'équipe adverse ne marquera pas de but. Il va y avoir des cadrans installés dans les coins de patinoire. On a parlé hier de l'utilisation du casque protecteur pour les séances d'entraînement, pour la période de réchauffement, pardon. Toi, est-ce que le casque pour une période de réchauffement, j'imagine que tu as vu une grande différence entre ton arrivée à la Ligue nationale où il devait en avoir plus qui jouaient pas de casque pendant la période de réchauffement, puis tes dernières années où à peu près tout le monde avait un casque?
Oui, j'ai vu vraiment l'évolution de ça. Mes premières années, c'était personne qui avait de casque dans le warm-up, puis je veux pas dire que les gars voulaient flasher, mais tu sais, les gars se peignaient avant d'embarquer sur la glace, avant d'aller dans le warm-up, puis il y avait pas de casque, puis à chaque année, il y avait un gars qui recevait une poque ou qui retournait au vestiaire et il fallait qu'il se fasse faire des points de suture. Ça arrivait tout le temps, des bad luck. Là. Tu passes, tu lances ta rondelle, tu passes à côté du filet, mais une rondelle qui frappe le poteau, la barre horizontale, puis toi, tu t'en attends pas, la rondelle, elle s'en vient directement dans ta direction, dans la face. Fait que moi, ça a été quand même assez court. J'ai fait une ou deux games, puis par la suite, je me suis mis un casque, puis ça a été de même tout le restant de ma carrière. Puis, comme que tu as dit, là, par la suite, chez à Boston, ma dernière année à Boston, l'équipe était obligée de mettre un casque dans le warm-up. On laissait la chance aux vétérans, que je veux dire, une loi non écrite, là, on peut dire, avec les Bruins, là, que si tu étais un vétéran et tu avais commencé comme ça, ben là, tu pouvais continuer, mais les gars comme Chara mettaient un casque pareil pour suivre l'exemple de l'équipe. Fait que de plus en plus, on va voir des choses comme ça. Puis je sais pas si ça rappelle, Dan, d'une couple d'années.
Taylor Hall,
à Edmonton. Les gars sont dans la ligne qui attendent pour faire, on va dire, la fameuse banane. Puis il y a un gars qui arrive en arrière d'eux, puis il tombe sans faire pas exprès, puis il ramasse toute la gang comme un jeu de quilles. Puis il y a un patin qui manque, qui est coupé l'œil ou quasiment le cou au complet. Fait que je pense que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Puis t'es mieux de d'être plus safe que des choses comme ça arrivent. Fait que moi, ouais, je suis vraiment pour ça que tous les gars aient des cases en mouvement.
Deux questions avant de te laisser rapidement, Simon. D'abord, le Lightning de Tampa Bay, 106 points, Kucherov, 108. Est-ce que pour toi, c'est une équipe qui... oui, ils sont parfaits, là, tout le monde est en admiration, mm-hmm, avec le Lightning, mais est-ce que quand tu analyses ça, puis de ce que tu as vécu pendant la 14 ans dans la Ligue nationale, c'est trop beau pour être vrai? Il va encore arriver de quoi au Lightning en série cette année?
Ben, c'est sûr que là, moi, je reste à dire que la saison, c'est une chose et c'est juste une autre chose. Le bravo Lightning de Tampa Bay, c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qu'ils font présentement. Seulement 12 défaites, Dan. C'est quasiment, tu joues 10 games, tu perds juste une game là, durant la saison.
Ouais.
Tu fais ça 9-8 fois. Là, c'est vraiment impressionnant. Mais là, quand la dernière fois qu'une équipe a dominé autant que ça dans une saison, fini premier et a gagné la Coupe Stanley, ça fait longtemps. Il faut revenir. Je veux pas me tromper, là. Peut-être qu'il y en a qui vont dire c'est arrivé avant ça, mais je voudrais quasiment revenir dans le temps des Red Wings de Détroit, l'Avalanche du Colorado. C'est un autre paire de manches. Puis, tu sais, les équipes vont. Ils leur donneront pas la Coupe Stanley. Toutes les équipes qui vont faire les séries veulent prendre leur chance, puis ils veulent gagner la Coupe Stanley. Mais je suis persuadé que le Lightning va apprendre de leurs erreurs du passé, puis qu'ils vont. Ils vont se rendre loin. Moi, je les vois se rendre loin dans les séries. Finale de conférence, probablement finale de Coupe Stanley, mais il n'y a rien de gagné, personne ne va leur donner, mais c'était vraiment une équipe, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une belle équipe comme ça dans la Ligue nationale, comme tu as dit. Moi, dans mon temps, je me rappelle les Red Wings de Détroit, l'Avalanche Colorado, c'est la mémoire qui me revient de d'une équipe comparable à celle du Lightning de Tampa Bay cette année. Ils ont vraiment tout, là. J'ai regardé le line-up avant de te parler, là. Ils ont 4 bonnes lignes, ils ont 6 bons défenseurs, ils ont 2 gardiens de but qui ont fait un excellent job cette année. Fait que bonne chance à l'équipe qui va les affronter dans les séries cette année.
Parfait. Un gros merci, Simon. Bonne soirée à toi.
Ça fait plaisir, Dan. Salut les boys. Salut Marie-Charles, Charlotte et Jérémy. Faites un très bon travail. Je vais continuer à vous écouter après j'ai raccroché.
OK, parfait. On dit merci. Super. OK, merci. Bonne soirée, Simon. Je vous rappelle que Carey Price, hier, a rejoint Jacques Plante pour le plus grand nombre de victoires dans l'uniforme du Canadien avec 314. On va écouter. On va se mettre dans l'ambiance, tiens. Et au retour de la pause, étant donné qu'on vient de parler du Lightning avec Simon, je veux juste vous préciser qu'au retour de la pause, on s'en va en Floride parler avec Mathieu Garon, qui travaille justement pour le Lightning de Tampa Bay.